Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct.
Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin.
Et par extension wa muslima.
Est-ce qu'il faudra tirer ces références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf rabbi, rabbi ya'arf mimouna, mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, salam, azoul, marahba bikoum sur les ondes positives de Au cœur de l'islam. Nous sommes au rendez-vous avec vous tous les vendredis à 5h et à 14h, un horaire qui changera durant Ramadan. Nous serons, avec la grâce de Dieu, votre énergie pour toute la journée. Et puis Kamel Chekat prendra le relais avec vous juste avant la rupture du jeûne. Que Dieu nous facilite le culte.
Amen.
Je ne cesserai jamais de répéter cette prière, même si certains me font remarquer que la tournure est fausse et la prière en question est celle-là. Lahumma ja'alna abida ihsan, la abida abtila. Salam alaykoum Kamel Chekat.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qui est faux comme tournure?
Alors, vous remarquerez qu'on peut distinguer trois termes importants, abid, ihsan et ibtila. Et selon un hadith du prophète, alayhi salatu wasalam, il est dit, ashaddu nasi bala'an, anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu.
Oui. Ceux qui seront le plus éprouvés, ce sont les messagers.
Oui.
Bien les prophètes.
Yubtalanna
ala qadari imanihim.
Ala qadari dinihim.
Dinihim. Ça vient selon votre degré de religiosité ou de foi. Donc, c'est les prophètes. Ensuite, en descendant, le meilleur,
le plus vertueux,
et puis ceux qui viennent. Mais qu'est-ce qui pose problème entre les deux textes? Ça, c'est une supplique. Peut-être qu'il émane d'un homme vertueux, d'un homme saint, pas plus ni moins. Mais où est le problème?
On me dit que l'ibtila va avec l'iman.
Non, pas forcément.
Ah
il
bon?
Il y a l'épreuve et il y a le bala al-hasan aussi. Il y a des gens qui sont éprouvés de la meilleure manière qui soit. Par moment, peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, mais Dieu, par exemple, peut vous éprouver en vous donnant beaucoup, beaucoup d'argent, par exemple. C'est une épreuve aussi. C'est un ibtila. Yubtala al-insanu bil-mal. Huwa bala'un hasan. C'est une bonne chose pour ceux qui sont vertueux, mais ça peut être une mauvaise chose aussi pour quelqu'un que Dieu veut chasser de sa miséricorde. La yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayran li anfusihim. Innama numli lahum li yazdadu. Charran, ou bien Koufran. Corée, Qarun, dans le Coran.
Ouais.
Il a été prouvé par la fortune. Ça veut dire que ces coffres forts, alors imaginez, pour fermer les portes des coffres, imaginez des grandes portes avec des barres de fer que ne pouvait porter que sept hommes réunis. Et on prend la barre de fer et on la met sur les deux crochets là qui sont accrochés à la porte pour que nul ne puisse l'ouvrir. Vous imaginez ce qu'il devait avoir comme argent,
inimaginable,
comme fortune inimaginable. Hada bala'un hasan. Beaucoup de gens aimeraient bien être éprouvés par ça.
Oui.
Mais est-ce que ça vaut le coup, réellement? Donc, il n'y a pas de contradiction. Et là, moi, j'aimerais bien, parce que très souvent, on me pose la question. Est-ce que nous adorons Dieu parce que nous devrions l'adorer par crainte ou bien par amour? Écoutez, nous sommes au stade où nous adorons Dieu parce que Dieu nous a ordonné, rendu obligatoire de l'adorer. Quand vous réfléchissez bien, quand vous raisonnez bien, vous ne pouvez qu'aller vers l'adoration de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, normalement, cette adoration devrait vous amener à méditer un peu plus vos actes. Et à partir de là, il y a une crainte, normalement, de Dieu qui devrait s'installer dans votre cœur. Si vous n'avez pas de crainte de Dieu, à quoi cela vous sert-il d'adorer ce Dieu? Ensuite, si le cheminement est bon, la crainte, nous parlons de crainte et non d'une peur bleue, d'une peur qui vous glace le sang. Nous sommes dans quelque chose de réfléchi, de raisonné. Donc vous adorez Dieu en un second temps avec une certaine crainte à laquelle vous allez mêler de l'espoir parce que vous comptez sur la clémence de Dieu. Et donc normalement, si ce cheminement est bien suivi, vous allez arriver à adorer Dieu par amour. Ça, pour le moment, bon, rares sont ceux qui sont arrivés à ce stade. Nous savons que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, aimait tellement Dieu qu'il trouvait justement du plaisir dans l'adoration. « Arihna biha ya Bilal » « Repose-nous » ou « Apaise-nous » avec la prière au Bilal. Et puis, parmi les seuls, enfin, l'un des rares exemples qui me vient comme ça à l'esprit, c'est celui de Rabi al-Adawi, « Qila annaha kanat ta'shaqullah ». C'est une passion, carrément. C'est un amour fusionnel. Est-ce que nous arriverons un jour à atteindre ce degré? Ben, je l'espère bien pour nous. Et donc, comme finalité, je dirais que il n'y a pas de contradiction avec le principe que vous avez évoqué et la prière que vous avez prononcée.
Mais Kamal Chakat, vous parlez d'amour divin chez Rabi al-Adawiya, Soumnoun ou bien chez Ibn al-Farid. On les connaît grâce à cet amour pour Dieu, mais aujourd'hui c'est un peu difficile à notre ère. Comment mettre sur un plan pratique, comment aimer celui qui vous fait subir toutes les méandres de la vie? C'est difficile à notre ère.
Oui.
Difficile de comprendre et...
Justement, le problème, il n'est pas difficile de le faire. Il est difficile de comprendre sur quoi se base cette relation. Dès lors où vous l'avez comprise, c'est bon. Vous parlez de méandre.
Oui.
Le jour du jugement dernier, nous nous rendrons compte que notre vie n'aura fait que l'équivalent d'une à deux heures. Du temps tel que nous le vivons actuellement, quand on arrivera à quantifier. Là, quand nous serons projetés dans la vérité vraie, entre guillemets, tout le monde se rendra compte de la réalité des choses. Si on a dans la vie d'ici-bas une bonne vision de la vie, si la chose est pas basée sur un paradigme qui consiste à faire comprendre aux croyants que le monde d'ici-bas c'est un passage, et qu'après ce passage il y a une période transitoire que nous appelons le barzakh, et qu'après cette période transitoire il y a une période qui s'inscrit dans l'éternité, qui s'appelle l'au-delà. Alors si tout ça est bien assimilé, on aura tout compris et à partir de là, on aura tout supporté.
Donc finalement, c'est une question de mindset. Il faut changer son mindset, comme dirait
absolument.
Greg Braden, Joe Dispenza. Absolument. Ou un des nôtres hein, a salué bien bas Dr Lies Barlik, qui n'arrête pas de dire « il faut changer de regard ».
Oui, je dirais à Dr Barlik que ça n'est pas évident non plus. Hein.
Oui.
Lies Barlik, c'est le président de l'Association mondiale de médecine orthomoléculaire.
L'ISAM.
Oui.
International Society of Orthomolecular Medicine. Kamal Chakat, juste une dernière bribe de ce hadith du prophète alayhi salat wa salam et on passera à autre chose. Alors, dans un autre hadith relaté par Saad, il dit « Qultu ya Rasulullah ayyun nasi ashaddu bala'an qala al-anbiya'u »
L'anbiya, les
messagers,
puis les vertueux,
puis
ceux qui viennent après eux, degré après degré, en termes de foi.
Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi.
Oui, c'est en fonction de sa conformité à la religion que la personne est éprouvée.
Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi.
Oui, donc s'il y a de, on va dire, de la fermeté dans sa religiosité, l'épreuve sera un peu plus pénible, c'est-à-dire à la hauteur de cette fermeté. Mais bon, attention, ça n'est pas une science exacte. Enfin, je veux dire par là que la chose n'est pas automatique. C'est pas parce que vous êtes une personne vertueuse que Dieu va vous éprouver à longueur de temps. Mais quand vous recevrez des épreuves, les épreuves que vous recevrez sont là justement pour tester votre foi. Est-ce que vous êtes à la hauteur de ce que vous paraissez être ou est-ce que vous ne l'êtes pas? On va les laisser comme ça dire oui, nous avons cru, alors qu'ils ne sont pas éprouvés. Non.
Donc Dieu, c'est une règle.
La règle, elle est là. Mais elle n'est pas automatique. C'est-à-dire que si ça vous arrive, il faut bien vous rendre compte que vous êtes dans la règle. Tout simplement.
On poursuit avec le hadith, Kamal Shakat. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu.
Oui, s'il y a un point faible, on va dire ici, riqqa.
Wa ma yazalu al-bala'u bil-'abdi hatta yamshi 'ala dhahri al-ardi laysa 'alayhi khati'atun.
Oui, ça veut dire que l'épreuve est là pour vous purifier généralement de certains manquements. On ne cesse de subir des épreuves jusqu'à ce que nos pages deviennent blanches. Je parle des pages des livres qui consignent nos actes, tant ceux qui sont en notre faveur que ceux qui sont en notre défaveur.
C'est quand même assez ardu et pénible, hein?
Heureusement. Parce que quand je dis heureusement, je ne me réjouis pas du tout de cela et je fais partie de ceux qui prient Dieu de ne subir que de bonnes choses. Al-bala al-hasan. Honnêtement, moi-même je n'aimerais pas être éprouvé. Mais c'est quoi ce monde dans lequel nous vivons à côté de celui auquel chacun de nous est promis, qu'il s'agisse du paradis ou de l'enfer, du bonheur éternel ou de la damnation éternelle. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Rien du tout.
Il nous faut un bon mindset. Kamal Shakat, au début du hadith, il est question de ibtila, yubtala rajulu. À la fin du hadith, wa ma yazalu al-bala'u, on parle de bala. Est-ce qu'il y a une différence entre ibtila ou bala?
Généralement, on utilise le mot ibtila pour ce qui est mauvais et le mot bala pour ce qui pourrait être bon. On dit l'ibtila. Donc c'est une épreuve dure, ardue, qui va mettre votre foi à rude épreuve, qui va vous examiner en quelque sorte. Et quand on parle de bala, on parle généralement de bala hasan.
Alors je terminerai ce premier chapitre de l'émission d'aujourd'hui Kamal Shakat avec cette citation de Abu Hamid al-Ghazali qui nous dit: l'homme égaré est celui qui s'illusionne sur sa propre piété, croyant qu'il lui suffit de s'abstenir des grands péchés extérieurs pour être en sécurité devant Dieu. Mais son cœur est sec, son amour pour le divin est absent, et il ne se rend pas compte que cette sécheresse intérieure est la plus grande des maladies.
Absolument.
Donc à soigner.
Bien sûr, vous avez... D'ailleurs, ça rejoint un peu le namot, la manière dont beaucoup de gens abordent le culte. Nous sommes nombreux à être dans les mosquées, nous sommes nombreux à avoir le paraître qu'il faut, à croire que qu'être un bon musulman, c'est avoir la panoplie du bon petit musulman, et les cœurs ne sont pas là. Donc à quoi cela nous sert-il?
Que Dieu nous aide sur ce chemin et nous facilite la voie.
Amen.
Chaban, un mois des plus chéris pour le prophète Sidna Mohammed alayhi salatu salam, un mois lors duquel on a vu le changement de direction de la prière.
Oui.
Après près d'une année et demie d'orientation vers Jérusalem.
16 à 17 mois selon les différentes sources. Oui.
Dieu a décidé sur différentes prières et sollicitations de Sidna Mohammed alayhi salatu salam que Dieu change cette direction.
Lui,
pourquoi Kamal Shakat?
Écoutez, quand la prière a été rendue obligatoire après l'Isra ou le Mi'raj, il a été commandé au messager, de Dieu alayhi salatu wassalam, de s'orienter vers Jérusalem,
oui.
Beit al-Maqdis. Ce qui a été un point de réjouissance pour les juifs qui ont commencé à dire voilà, cette religion est une imitation du judaïsme. Ce prophète tant attendu chez vous, etc., il n'a d'autre choix que de rallier la véritable religion qui est celle de Moïse. Nous, nous savons que la religion de Moïse était la véritable religion, oui. C'est la religion de Dieu.
Mais pas celle altérée par les Juifs.
Non, absolument pas.
Et les gardiens du temple.
Pas celle qui a été
travestie
par les marchands du temple.
Oui.
Et donc, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, avait le cœur lourd à cause de cela.
Pourquoi il avait le cœur lourd par rapport à cette...
À cause de ce que disaient les Juifs.
Oui. Quelle implication sur le devenir de la religion dont il était porteur, le message qu'il devait diffuser? Ça pouvait altérer cette nouvelle religion?
Oui, bien sûr. Ça... D'ailleurs, écoutez, même en ayant changé de Qibla, lui voulait s'orienter vers la maison de Dieu, vers la mosquée sacrée, la fameuse Kaaba.
En souvenir de son grand-père, Sidna Karim alayhi salam.
Absolument, absolument. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose. Dieu parle justement du clan de Bani Hashim, Bani al-Muttalib. Il dit « وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ». Les ancêtres directs du messager de Dieu, alayhi salatu salam, étaient des gens qui étaient quand même imprégnés d'une certaine religiosité, d'une certaine piété.
Hanifia.
Presque. Ils étaient polythéistes, qu'on le veuille ou non. Mm. C'était des gens qui connaissaient le jeûne. C'était des gens qui s'isolaient dans Ghar Hira. Le messager de Dieu, alayhi salatu salam, il n'a pas commencé à faire ça comme ça. Mm. Parce que les siens le faisaient.
Oui.
Et donc, il allait à Ghar Hira, il s'adonnait à la méditation, à la contemplation, au silence, etc. Et là, nous sommes dans ce que Ibn al-Qayyim appelle « Hidayatul Ilham ». Quand on parle des différentes guidances, on en a parlé, si je ne m'abuse,
oui,
il y a quelques temps.
Dans la précédente émission.
Oui. Et donc, lui, il était dans cette logique. Et ce qui a facilité, justement, le fait qu'il devienne... Bon, il était destiné à devenir le sceau des messagers, le dernier des messagers, mais il avait quand même quelques qualités qui le prédisposaient et qui rendaient cette élection possible. Et donc, il était plus ou moins conscient de ce que pesait dans l'imaginaire collectif des Arabes de l'époque ce cube noir qu'est Al-Kaaba. Quand il a commencé à s'orienter vers le
Jérusalem,
les Juifs ont trouvé en cela le moyen de médire un peu d'une sorte de vassalité. Voilà, quoi que vous fassiez, vous les Arabes, vous serez toujours nos subordonnés. Ça ne lui plaisait pas.
Kamashika, jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver dans certaines études académiques vraiment solides, on dit, Kamashika, dans ses thèses et travaux scientifiques, que c'est Waraqa ibn Nawfal, l'oncle de Sayyida Khadija alayhi salam, qui a transmis quelque part ce nouveau message qu'il a transmis à Sidna Muhammad alayhi salatu salam. Alors certains disent que l'islam découle du christianisme et d'autres disent que,
non, attendez,
que c'est une copie
du
judaïsme.
Il y a énormément d'études faites par des orientalistes qui disent que l'islam est une imitation des religions
une
précédentes.
Une imitation, voilà, c'est le terme.
Donc, on vous dira qu'il a pris une part de sa science, généralement de certains érudits de l'époque qui étaient al-Hanifiya, c'est-à-dire c'était des monothéistes. On parle de son départ, de son voyage avec son oncle vers Souq Uqad, où il a vu... Pas uniquement Bahira. Il y a un arabe qui se tenait généralement sur son cheval dans Souq Uqad, j'ai oublié son nom, connu, très connu,
oui,
parmi les orateurs arabes de l'époque, et c'était quelqu'un qui n'était pas polythéiste. Et on dit aussi qu'il a pris une part de sa science de Bahir al-Rahib. Cette histoire de Bahir al-Rahib, certains la remettent en question de bout en bout, mais même, on va partir du principe qu'elle soit avérée, il n'a rencontré Bahir al-Rahib que l'espace d'une heure, l'espace, oui, d'un repas, pas plus ni moins. Point quant à Waraqa ibn Nawfal, comment pouvez-vous expliquer que Waraqa ibn Nawfal se soit donc converti à l'islam après cette rencontre avec le messager de Dieu, si l'islam avait été une imitation du christianisme? Et là, vous savez, j'ai déjà eu à discuter de cela avec des chrétiens, oui, qui m'ont dit, n'oubliez pas que votre prophète a tout pris de Waraqa ibn Nawfal. Et quand j'ai dit, mais attendez, Waraqa ibn Nawfal, alors comment expliquez-vous qu'il se soit converti à l'islam après cela? On me dit, ah non, vous savez, nous n'avons rien qui nous le dise. Et puis, vous savez, votre sunna, elle est un peu sujette à caution. Alors, d'une part, vous citez Waraqa ibn Nawfal parce que vous avez l'information grâce à la sunna, mais vous réfutez le reste parce que ça fait partie intégrante de la sunna. Alors, expliquez-vous, le jour où vous-même, dans vos esprits, vous arriverez à démêler tout cela, revenez me voir. Quand on vous dit l'islam est une imitation du judaïsme et du christianisme, l'islam, c'est l'islam depuis que le monde est monde et depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à envoyer des messagers. Et ces deux appellations que sont le judaïsme et le christianisme, nous savons à quel moment elles sont intervenues dans l'histoire. Nous savons que c'est une altération de l'islam de Moïse et de Jésus, alayhi salam. Et nous savons, quand nous analysons les textes fondateurs de chaque écrit, nous savons où est l'erreur. Nous savons quel est le véritable islam. Je suis désolé pour tout le monde. Donc, une imitation, en quoi est-ce une imitation? Vous nous parlez dans les deux religions sur l'un des principes phares de ce qui fait le monothéisme. Vous n'êtes pas monothéiste. Soyons sérieux. Nous sommes beaucoup plus dans une réforme, dans une restauration du véritable culte que dans l'altération qu'ont connu vos cheminements religieux respectifs, à savoir ce que vous appelez judaïsme et ce que vous appelez christianisme. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, il lui tenait à cœur de revenir à ce qu'était la première maison sacrée de Dieu, à savoir le Kaaba, dont nous trouvons des traces, même dans les Védas, que les Védas appellent justement Makteshwar, pour Mecca. Et nous trouvons aussi dans des évangiles, hein, la vallée de Baqa.
Baqa,
oui. Baqa, c'est le cube noir.
Baqa est évoqué dans Sourate Al-Imran.
Oui, إن أول بيت وضع الناس الذي ببكة بكة سميت بكة لأنها تبك الأعناق. Parce que quand vous approchez d'elle, vous avez le cou qui est pratiquement tordu vers le haut parce que vous êtes en admiration devant elle. Cette appellation Bekka, c'est le cube noir. Mekka, c'est toute l'esplanade. C'est Sahna avec toute la ville. Et on trouve donc des traces. Mais bien sûr, Bekka est occultée des anciennes écritures pour éviter qu'elle ne redevienne, qu'elle ne reprenne sa place initiale qui est le centre mondial de la terre et le centre, le point névralgique de l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il suffit juste de savoir que la ville de la Mecque a une spécificité qui fait que la navigation aérienne y est interdite parce que tout avion qui passe par Mecca risque de tomber. Mecca n'obéit pas à la gravité et au champ terrestre comme c'est le cas au champ magnétique, hein, comme c'est le cas pour toutes les autres villes du monde. C'est une ville à part sur laquelle il y a ce que nous appelons en langue arabe mana, c'est-à-dire un faisceau qui relie ce point qui est véritablement le centre de la Terre. Le centre, le point central de la Terre, c'est Mecca et non pas Greenwich Mean Time, comme le pensent certains. Allez sur Internet et voyez comment ont été façonnés les faisceaux horaires de ce monde, et vous allez vous rendre compte que le monde n'est pas divisé en quartiers bien distincts. C'est d'une aberration totale. Comment est-ce que les différents fuseaux horaires ont été décidés, dessinés? Vous allez être ahuri.
On va nous dire que c'est une nouvelle invention de Kamal Shekat qui est dans la périphérie de l'islam,
oui,
qui n'est pas encore dans le centre. Ça. Kamal Shekat, cet épisode donc du changement de direction de la prière des musulmans, oui, est évoqué dans Sourate Al-Baqarah.
Absolument. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضي. Aussi, c'est 144. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Le problème est là avec les Juifs. Quand Jésus a été envoyé pour annoncer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'où l'appellation d'évangile. L'évangile signifie bishara. Et c'est un enseignement spirituel pur. La loi, c'était celle de Moïse. Elle allait être réformée par Jésus alayhi salam. Parce que les grands prophètes jouent le rôle de législateurs aussi. Nous n'avons dans l'histoire des prophètes que deux prophètes qui aient été à cette hauteur justement en termes de législation. Il y a Moïse et il y a le sceau des messagers. Même Sidna Ibrahim alayhi salam n'était pas un législateur porteur d'une loi divine comme c'est le cas pour Moïse et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Même s'il avait ses souhaf Kamal Shekat.
Oui, mais c'était pas...
Ça n'apportait aucune loi.
Non, ce n'était pas aussi puissant, aussi élaboré que ce que nous trouvons normalement dans la Torah originelle et ce que nous trouvons actuellement dans le Coran. il y avait aussi beaucoup, beaucoup de spiritualité, d'enseignement spirituel, comme c'est le cas pour les évangiles. Et donc, les marchands du temple, ce qui fait office aujourd'hui de lobby sioniste carrément, ils ont bien compris le message divin. Le fait que Jésus, comme nous l'avons déjà dit, soit venu sans père, ils ont bien compris que c'était là la fin de la lignée des messagers
chez les
Bani Israël. Et surtout, c'était une rupture de la lignée de David. Et attention, Jésus alayhi salam se réclamait fils de David. Et ça rejoint un peu ce que nous trouvons dans le Coran, quand il a été dit à Maryam alayhi salam, « Ya ukht Haroun ». Les moines de Najran, quand ils sont venus voir le messager de Dieu, ils ont fait cette remarque aux musulmans, disant... Comment pouvez-vous dire aux sœurs d'Aaron, alors qu'il y a pratiquement 7 siècles, et là le messager de Dieu a dit, oui, eux-mêmes, ils avaient l'habitude d'attribuer ou d'affilier leur progéniture directe à leur vertueux, à leur saint. Et c'est ce qu'a fait le Coran dans ce verset.
Et nous, donc si il vous a lisez... rappelé un fait sociologique. Hein.
Oui, pratiquement. Et quand vous lisez les évangiles...
Il y a des à tous les niveaux.
Oui, les 4 évangiles. Vous retrouverez à 15 reprises Jésus, fils de David. Il y a même un petit problème là-dedans. Bon, quand on dit fils de l'homme, le fils de l'homme, dans les évangiles, j'invite nos amis chrétiens à méditer là-dessus, le fils de l'homme, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous avez quelqu'un qui puisse venir ici pour en discuter, j'en serai plus qu'heureux. Et normalement, si celui que vous enverrez a un tant soit peu de jugeote, après une pareille confrontation, il dira « Shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammad Rasulullah ». Je vous mets au défi, hein, de A à Z. Et j'adore ça, parce que vous savez, quand vous savez que vous êtes dans la vérité vraie, rien ne peut justement vous faire peur. Le problème avec ces évangiles que nous, musulmans, tenons pour des faux, est que dans ces mêmes évangiles, même s'il est dit à près de 15 reprises « Jésus, fils de David », il est dit une fois, je ne sais plus à quel moment, il est dit « Jésus, fils de Joseph ». Et on parle ici de Joseph le charpentier.
Pas Joseph Nabi, alayhi salam,
non.
Fils de Jacob.
Et ceci sous-entend que Jésus serait un enfant issu du péché. Wal'iyadu billah. Ce qui n'est pas vrai. Nous sommes les seuls à défendre l'honneur de Marie alayhi salam et l'honneur de Jésus alayhi salam, qui est un miracle de Dieu et qui n'est pas l'enfant de Dieu.
Vous avez commencé la citation à partir du verset 144.
Oui.
Mais il y a aussi deux versets précédents qui sont importants. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim lati kanu 'alayha. Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim.
Parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction de cette qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant. Et là le verset dit bon, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, il guide qui il veut vers un droit chemin. Et aussi, une communauté de justes. Vous savez, le mot « wasat » ici, ça veut dire que vous êtes pratiquement dans l'honorabilité parfaite.
Wow.
Vous êtes un vrai vertueux. C'est comme « qissat ahl al-jannah ». قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسْبِحُونَ. Les frères, il y a un homme vertueux. Qui avait l'habitude, avant chaque récolte, de donner une part de sa récolte aux pauvres. Et quand il est mort, ses enfants ont dit, bon, cette année, il n'y aura rien pour les pauvres, c'est un manque à gagner important, etc. Et ils avaient l'un d'eux qui leur disait non, restez sur la trajectoire.
Le plus jeune. Hein.
C'est pas forcément le plus jeune. Nous, je me souviens quand dans les années 80, quand j'ai commencé à mémoriser le Coran, qala ausatohum, on pensait qu'ils étaient trois et que celui du milieu disait non. Ouais. Mais en fait, ausatohum, c'est-à-dire celui d'entre eux qui était le plus vertueux. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ça veut dire, on peut aller vers le sens qui dit une communauté du juste milieu. Nous parlons de médianité. Et le fait justement d'être dans le juste milieu fait de vous une personne qui est, on va dire, tempérée, qui est...
Plus proche de la vérité.
Oui, c'est-à-dire que itizan, vous avez de l'équilibre. Ouais. Tant sur le plan mental que sur le plan comportemental. Mais le mot wasat ici, ça veut dire une communauté de juste, une communauté de vertueux. Afin que vous soyez témoin des gens ou bien aux gens, comme le messager sera témoin à vous, témoin sur vous. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم celui qui suit réellement le messager de celui qui se détourne de lui وإن كانت لكبيرة إلا على الذين
هدى الله Kamashkat, je ne vais pas vous lâcher. Vous êtes auteur, je rappelle que vous êtes auteur de l'exégèse du Coran avec votre ami M. Saïd Boudounoul.
Non, c'est une traduction. Annotée. Ça s'appelle traduction du sens des versets. Bien sûr, on se base sur l'exégèse pour faire une traduction. On peut pas traduire directement le verset, ça ne sert absolument
à rien. Donc, Kamashkat, on va essayer de décortiquer ces versets.
Oui.
Dieu Subhanahu parle de soufaha. Qui sont ces soufaha? Les
justement.
Hypocrites, les faibles de...
Non, soufaha, c'est les faibles d'esprit.
D'accord.
Tout comme on en a beaucoup actuellement.
Faibles d'esprit qui étaient musulmans aussi?
Vous savez, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe actuellement?
Ça craint.
De temps à autre, vous avez des gens qui viennent vous dire, attends, on nous a bassinés pendant je ne sais combien de siècles et finalement il s'avère que tout est faux. Ah bon, qu'est-ce qui est faux? Par exemple, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire le buzz, il n'a qu'à sortir à débiter une énormité et ça se propage comme un feu de paille. C'est incroyable.
Par exemple, j'ai un ami qui me disait récemment, finalement, le prophète n'a pas existé. Jacqueline Chabi parle d'un inconnu historique.
L'inconnu historique. Jacqueline Chabi, une ignare de première. Non, c'est une ignare de première, la pauvre. Elle a voué sa vie à combattre l'islam. Une fois, quand il y a eu la traduction, quand il y a eu le fameux livre de Christophe Luxemburg, The Origins, Syro-Aramic, Origins of the... Les Christophe Luxemburg.
Le syriaque du Coran.
Du Coran, soi-disant. Le syriaque.
La langue de Jésus, alayhi salam?
Oui, le syriaque. L'araméen, Jésus.
L'araméen, oui.
Comme l'araméen, ou l'archaïque, ou l'hébreu. Maintenant, nous allons vers des études très très poussées qui disent même le phénicien est d'origine arabe, même donc par là, nous allons même aboutir à le Tifinagh et j'en passe.
Vous êtes dans la thèse de Rachid Ben Issa, Kamal Chakat.
C'est la thèse de Rachid Ben Issa, mais ce n'est pas, mais pas que Rachid Ben Issa, oui. C'est aussi la thèse de Noam Chomsky, des grands linguistes qu'a connu l'ère moderne. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, déjà, c'est pas Luxemburg, il s'appelle Khoury, c'est un maronite libanais qui a écrit un livre sous un nom d'emprunt. Luxemburg, c'était un pianiste. Et il a enlevé les points et les signes diacritiques du Coran. Et ensuite, il a repointé les lettres à loisir, à volonté, comme il voulait le faire.
Fill in the gaps.
Oui, c'est pire que ça. Bon, fill in the gaps. On vous donne, comme dirait l'autre, make your choice. Quelques mots et vous avez à les mettre dans les blancs. Et lui, donc, il a joué un jeu macabre. Et je me souviens de Jacqueline Chabi qui passait sur une chaîne évangéliste qui disait oui. Alors, elle ne perd jamais une occasion pour se moquer de l'islam et des musulmans. Elle a parlé des ablutions sèches et elle dit oui. Alors imaginez, alors il leur dit de se s'essuyer le C, trois points de suspension, comme l'aurait écrit Agatha Christie, avec une pierre. Et elle rigole. Mais attends, Chabi, quand les Arabes et les musulmans faisaient cela, vous les Français, vous êtes allés à la saleté jusqu'à devenir les maîtres en termes de parfumerie pour cacher vos odeurs nauséabondes. C'est pour ça que la France est devenue le pays numéro un en termes de parfum. C'est parce qu'ils étaient dans l'obligation de cachées. C'est les mauvaises odeurs qui circulaient.
L'épisode des Jeux Olympiques de Paris 2024 et ce qui s'est passé au niveau de la Seine, Kamel Chekat.
Absolument. Ouais. Donc, bah, l'histoire se refait finalement. Et donc, elle parle de Laylat al-Qadr, elle enlève les points, elle remplace par je ne sais quoi, et elle aboutit finalement. Laylat al-Qadr, c'est la nuit des vigiles. Mais attends, petite ignare, la nuit des vigiles, quand est-ce qu'elle a été incluse dans le culte chrétien, dans la liturgie? Depuis quand? Et c'est pour ça que je parle d'ignare. C'est vraiment, vous savez,
Tant qu'elle consolide la thèse de
l'imitation du christianisme. Oui, nous sommes dans l'islamophobie savante, une islamophobie qui est basée sur des préjugés raciaux, pas plus ni moins. Et dès lors où c'est la haine raciale qui vous motive, ça ne peut que vous conduire vers une cécité intellectuelle. Vous êtes tellement aveuglé par votre haine de l'autre, que vous n'arrivez plus à faire preuve de discernement.
Il y a c'est aussi ça. De la peur, Kamel Chekat.
Bien sûr, parce que cette peur, elle a motivé l'Église au XIIIe siècle, au Concile de Vienne. Elle a tellement subi cette peur que les notables de cette secte se sont dit, voilà, il va falloir commencer à étudier cette religion pour l'imploser de l'intérieur. Et ils sont arrivés à leur fin, dans la mesure où, à chaque fois qu'il balance une énormité, vous avez des faibles d'esprit qui viennent vous dire « Finalement, tout est faux. Finalement, on nous a raconté des bobards, on nous a raconté des histoires. Mais attendez, soyons sérieux. » Là, moi, par exemple, ces gens-là, je les suis, bien entendu. Je tombe sur une énormité. La première chose que je fais, je commence déjà par faire abstraction de mes connaissances passées. J'étudie bien ce que dit l'autre. Je retourne au texte fondateur, par exemple. Dernièrement, enfin, ça fait quelques mois, je lisais un rapport de la NASA qui dit, c'est des scientifiques qui parlent. Et les scientifiques, quand ils parlent, généralement, ils sont dénués de toute idéologie, normalement. C'est la science qui parle, c'est l'observation, c'est... Ces gens-là vous disent, vous savez, finalement, le Big Bang, on va le remettre en question. Cette idée du Big Bang, c'est pas ça l'origine. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un avant Big Bang. Et c'est vrai, c'est vrai. Là, quelqu'un qui n'a pas de connaissances avérées en religion va venir vous dire « Mais attends, ça veut dire que ce fameux verset « Awlam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratqan fafatqnahuma » la masse compacte, la singularité initiale, tout ça c'est du faux. Non, ça n'est pas du faux. Là, tu es dans un épisode par lequel on va commencer la datation de l'histoire du cosmos tel que nous le connaissons actuellement, avec sa formation, avec un instant T, est égal à zéro. Mais le Coran, le début de ce qu'on pourrait appeler une histoire.
Parce qu'il y a la préhistoire, il y a la proto-histoire.
Proto-histoire. Et là, normalement, vous allez revenir, parce qu'il y a aussi un fameux verset qui dit « Yawma natwi as-samaa'a kataayi as-sijil lil-kutub » ou bien « lil-kitab ». Le jour où nous plierons les cieux et la terre, ou les cieux, comme nous plions un livre, comme nous refermons un livre. Tout comme nous avons initialisé ou commencé chaque création, nous ne faisons que la refaire.
Une nouvelle vie.
Une nouvelle histoire.
On
va dire une nouvelle phase, tout simplement.
Un nouveau cycle.
Le Coran ouvre le débat, justement, sur la création elle-même. Est-ce que le cosmos, l'univers tel que nous le connaissons, qui a 14 milliards et quelques d'âges, est-ce tout simplement là la création? Dieu a créé tout cela, il va y avoir une fin à tout cela. Ensuite, Dieu va exulter, va éprouver du bonheur à nous regarder, une partie dans le paradis, en train de profiter à profusion de ses biens, de toutes les bonnes choses qui y sont, et une partie en train de rôtir en enfer. Est-ce que vous pensez, en votre âme et conscience, que tout cela consiste en...
C'est une façon de limiter Dieu, finalement.
Non, c'est plus qu'une manière de limiter Dieu. Dans la mesure où 14 milliards et quelques d'années, c'est quoi par rapport à l'éternité? 14 milliards et quelques d'années qui s'inscrivent dans ce que nous, les êtres humains, appelons l'histoire, c'est quoi par rapport à Dieu qui est hors du temps et hors de l'histoire? Quand vous vous rendez compte que la vitesse à laquelle les anges se déplacent, c'est à la vitesse de la lumière et l'ordre se fait en un temps qui ne pourrait se faire avec ce que connaissent les êtres humains qu'en 50 000 ans, et que ces fameux 50 000 ans, c'est infinitésimal, c'est ypsilon divisé par je ne sais combien de milliards, parce que quand vous lisez quelqu'un comme Ibn al-Qayyim, il vous dira que l'être humain, c'est comme la cerise sur le gâteau. Dieu a tout créé, ensuite il a créé sa création la plus aboutie, c'est l'homme. Mais attends, l'homme, ce n'est rien par rapport à la création des cieux et de la terre. Et le Coran ouvre le débat sur des créations successives.
Oui.
Et ce n'est pas, parce que sinon ce serait un amusement, et Dieu nous dit, nous n'avons pas créé les cieux et la terre par amusement, la'ibin.
Ça nous rappelle le calendrier cosmique de Carl Sagan, quand même, c'est l'astronome américain.
Je ne connais pas.
Carl Sagan, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a placé le début de l'univers, hein, sa
oui.
création, sur un calendrier donc annuel.
Oui.
Et à chaque fois, il y plaçait un événement. Et selon son calendrier, à Carl Sagan donc, la naissance des dinosaures, de l'être humain, des êtres vivants, ne s'est faite cette création qu'aux dernières secondes du 31 décembre, du dernier jour de l'année.
Oui.
Donc tout ce qui s'est passé avant, pendant les 12 mois, c'était pratiquement...
La formation même du cosmos.
Oui.
Oui, c'est possible, bien entendu. Ça reste des théories, des hypothèses, c'est des scénarios. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, quand je lis une information d'ordre scientifique, et que cette information se met en contradiction avec le Coran, c'est pas le verset que je vais remettre en question, c'est peut-être ma compréhension qui n'est pas bonne, et puis voilà. Vous savez, une fois, je discutais avec une personne qui se réclame d'un athéisme irréductible. J'ai dit, écoutez, à la limite, moi j'aimerais bien que vous ayez raison. Elle me dit, ah bon, et comment? Si vous arrivez à me convaincre que vous avez raison et que je suis réellement en tort, ça ne pourrait que faire mon affaire. Je ne serai plus confiné dans cette obligation que de vouer un culte à Dieu. Je serai aussi libre que vous. Et là, je vous assure que je ferai beaucoup, beaucoup de mauvaises choses. Je suis désolé, je serai comme vous. Et donc, nous, la religion, elle est là, elle nous freine, elle nous bloque, c'est comme une entrave. Et on ne comprend l'intérêt, justement, que d'avoir ce code de conduite qu'après mûre réflexion. Les nôtres, les faibles d'esprit, soufaha, comme dit le Coran, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là et ils en ont assez d'être, ils sont harassés par la religion, par tout ce code de conduite, ce code éthique, les obligations, je ne sais quoi. Et dès lors, vous leur ouvrez une fenêtre comme ça, un petit créneau.
Ah, finalement.
Ou pas, finalement, c'est donc ça, on nous a menti. Non, personne ne t'a menti. Ouais. C'est ton cerveau qui ne fonctionne pas.
Et donc, ça peut être n'importe qui d'entre nous.
C'est oui. Là, alors là, il vit. Imaginez aller au moment où ça s'est fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation pendant Salat al-Asr.
Oui.
Et il y a un compagnon qui a fait la prière avec Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ensuite est allé dire justement aux autres que voilà, le Qibla a changé. Pendant la prière, on l'appelle jusqu'à présent Masjidul Qiblatayn. Il a dit, là, je vous jure ou je témoigne, je vous certifie avoir fait la prière en groupe avec le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. C'était normalement du côté de Quba. Il a changé de direction. Et là, ils l'ont changé eux-mêmes. Ça a duré pendant un certain nombre de mois. On dit 16 à 17, 16 à 18. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était gêné justement par cet ascendant psychologique qu'avaient les juifs sur les musulmans en raison de cela. Et le problème, c'est que là, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, n'a fait que revenir à la source. Parce que nous avons dans les évangiles une dame qui vient demander à Jésus où se situe justement le centre, le point névralgique de l'adoration de Dieu. Et il dit non, ça ne sera plus Jérusalem. Il va donner justement une description qui nous oriente vers la Mecque avec ce fameux cube, etc. J'ai oublié le verset.
C'est un musulman qui parle, hein.
Oui, non, mais le verset, il existe. J'ai un livre qui va sortir justement sur les citations de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les anciennes écritures, et je mentionne cela en parlant de Paran, de Bakka, de la Mecque, etc.
Félicitations, et donc, Kamel Shekat. Vous auriez aussi un autre livre qui sera très...
très bientôt sur le marché, oui. C'est La guerre dans les textes sacrés. Oui.
Ouais.
Là, parce que
il fait boule de neige, hein.
Oui, ça nous a... Ils nous ont bassinés avec cette ouais. idée que, oui, le Coran, la violence, je ne sais quoi. Et finalement... Le mot guerre, vous ne le trouverez dans le Coran qu'à deux reprises pour le mot guerre, harb, et quatre reprises au total pour le mot guerre ou faire la guerre dans toutes ses déclinaisons. Vous le trouverez dans les Bibles qui font référence un peu plus de 250 fois. Sans vous parler du meurtre, des viols, de tueries comme ça, des bains de sang où l'on tue des enfants, du bétail, etc., comme nous ne cessons de le voir.
Un livre à la Douglas Reed. Kamel Chekat, rappelez le titre, s'il vous plaît.
C'est La guerre dans les textes sacrés.
La guerre dans les textes sacrés.
Nous sommes avec les dernières corrections et puis j'espère que ça aboutira rapidement.
Inch'Allah, ya Rabbi Alamin. Kamel Chekat, continuons donc avec l'exégèse de ces versets de Sourate Baqara par rapport au changement de direction de la prière.
Ça s'est fait, attention, pourquoi ce que nous sommes en train de l'évoquer, ça s'est fait durant le mois de Sha'ban. Beaucoup de sources s'accordent sur le fait que ça s'est fait dans la mi-Sha'ban.
Mi-Sha'ban, oui, même si d'autres disent que la date n'est pas très très juste. وَكَذِلْكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ.
Qui est-ce qui suit les enseignements du prophète de celui qui fait volte-face, oui. C'est ça.
Donc ça a été un test pour les musulmans, Kamel Chekat?
Absolument, absolument.
Et nous continuons d'être éprouvés?
De la même manière, sur différents points.
Lesquels des musulmans qui étaient qui faisaient la prière vers Jérusalem avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont douté de la chose, qui ont remis en question ce changement de direction, Kamel Chekat?
Personne à ma connaissance, personne mimman yu'taddu bihim. Il n'y a que les hypocrites. Bien sûr, qui étaient des vassaux des Juifs. Les Juifs ont commencé à parler. Bon, quand on vous parle de Soufaha ici, ce sont les niais qui étaient à la botte, à la solde de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul.
Qui était rêvait... à Médine, Kamel Chekat.
Oui, à Médine. Mais le verset, quand il a été révélé, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, était à Médine.
Merci pour le rappel. Oui. وإن كانت لكبيرة إلى على الذين هدى الله كبيرة. Oui. Pourquoi كبيرة Kamel Chekat?
Là, justement, nous sommes dans l'impact de ce que nous pourrions qualifier d'intox. Parce que quand la chose a été faite, ceux qui attendaient le moindre, l'adina estaduna filma et la hakir, ceux qui empêchaient en eau trouble, ils ont trouvé la matière à lancer une polémique. Et à partir de là, forcément, la chose allait avoir un certain impact sur le mental des musulmans de l'époque. La chose est difficile. Parce que pour certains, peut-être, le fait d'être orienté vers Jérusalem donnait à l'islam une certaine, une certaine consistance, une sorte de légitimité. Le message qui s'en dégageait était le suivant. Voilà, vous avez affaire à une religion qui se réclame de la même lignée des prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de s'en détourner, c'est comme si on allait créer quelque chose de nouveau. Donc, la chose a pesé un peu, mais pas pour ceux qui était vraiment guidé. L'adina hadallah. Ça ne jouait que sur le moral de ceux qui étaient faibles d'esprit, que le Coran qualifie de soufaha.
Kamel Chekat, lorsque la salat a été rendue obligatoire, pourquoi c'est pas à ce moment-là qu'on a dit le Kaaba, c'est l'orientation de la prière des musulmans?
Je ne peux vous donner de réponse. Peut-être que la chose consistait en un
premier temps... Il y a sûrement une leçon à tirer.
Oui, écoutez, j'aurais été, avec l'esprit que j'ai maintenant, bien entendu, j'aurais fait partie des Juifs, je me serais sûrement converti à l'islam. Disons que voilà, ça c'est une religion qui est en train de restaurer le culte de Moïse, le culte d'Abraham, le culte de Jésus, alayhi salam. Nous sommes dans une lignée, dans une démarche qui est la même. Vous savez, le problème actuellement, une fois, c'était dans un salon. J'appelle ça des salons parce que quand j'assistais dans les années début 2000 aux différentes rencontres d'interfaith dialogue, une fois, il y avait des juifs et des chrétiens. Je leur ai dit, moi j'arriverai jamais à vous comprendre. Alors, vous les juifs, nous sommes en termes de monothéisme, nous sommes plus proches de vous. Nous glorifions les prophètes de Bani Israël dans le Coran. Nous ne disons que de bonnes choses de ces prophètes, parce que nous réclamons de cette obédience. Ce sont nos prophètes.
Moussa,
et pourtant, oui, et pourtant, vous nous prenez pour un ramassis, pour de la racaille. Vous médisez de notre religion, vous médisez de notre prophète.
Les descendants de la servante.
Oui, et vous, les chrétiens, nous sommes les seuls à défendre l'honneur de Marie et de Jésus. Nous sommes les seuls à avoir pratiquement protégé votre religion.
Imaginez. À défendre les chrétiens dans l'État musulman.
Non mais attendez, imaginez, je ne sais plus, je crois que c'est Hargib qui en parle, il dit, imaginons que les musulmans se soient mis en tête de décimer, de massacrer tous les chrétiens d'Orient. Vous pensez que la mafia du Vatican aurait levé le moindre petit doigt pour eux, pour les orthodoxes, les protestants et j'en passe? L'islam ne l'a pas fait. Et il l'aurait fait, personne n'aurait parlé. On aurait trouvé matière là à dire, voilà, maintenant nous sommes les seuls chrétiens de la place. Dans les années début 2000, quand le Vatican a annoncé que l'islam était première religion du monde, il a dit, ils sont les plus nombreux. Alors que quand vous prenez la chrétienté dans toute église confondue, c'est le christianisme qui vient en première place, en termes de nombre d'adeptes. Et pourtant, chacun d'entre eux jette l'anathème sur l'autre.
Alors, et imaginez, pourtant, dans le discours de Ratisbonne...
Oui, le général Ratzinger, la congrégation de la foi. Et c'est lui, l'un des protecteurs de l'inquisition qui vient parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'aberration fait que vraiment, we are fed up. On en a marre, on en a assez de... Et le problème, c'est que nos faibles d'esprit ne cessent de se laisser emporter justement par toutes ces polémiques.
Le narratif actuel Kamal Chekat pose problème et attaque énormément l'islam. Ce que vous venez de dire, Kamal Chekat, a été justement révélé dans la sourate Al-Baqarah, le verset 144, où Dieu dit subhanahu wa inna alladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allah bighafil 'amma ya'lamun wa la in atayta alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak
wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd.
Il a scellé leur cœur.
Oui,
il savait que c'était le...
Ils sont braqués sur leurs intérêts, sur leur manière de voir, et voilà, même si tu nous apportes toutes les preuves possibles et imaginables, nous ne suivrons jamais. Bien sûr.
Ils savent tout. Jusqu'au dernier d'aujourd'hui, hein, de nos
Absolument.
Contemporains.
Oui.
Kamal Chekat, que devrait nous apprendre ce changement de direction de la Qibla à la veille de Ramadan?
C'est comme si on opérait un retour plus effectif vers ce qui fait normalement l'originalité de toute cette religion, à savoir un point central qui est le premier lieu destiné ou voué à l'adoration de Dieu, qui est le Kaaba. Et actuellement, étudiez justement la géographie de cet endroit que nous appelons Mecca, et vous allez vous rendre compte qu'il a des spécificités, qui l'Église, qui en font le point central de l'adoration de Dieu sur cette planète que nous appelons la Terre.
Une implication donc dans notre façon de voir la religion musulmane.
Absolument.
On devrait suivre cet inconnu historique, se soumettre
bien sûr,
à ce qu'il a ramené comme message.
Bien sûr, absolument, absolument.
Eh bien, je vous remercie Kamal Chekat pour tous les détails de cet épisode lié au changement de direction de la Qibla qui a eu une occurrence donc durant le mois de Sha'ban.
Oui.
De quelle année, Kamal Chekat?
C'était, alors, quand il est arrivé à Médine, donc c'était à peu près la deuxième année de l'Hégire.
La deuxième
année
de
l'Hégire. La deuxième année, oui. 16 à 17 mois après son arrivée à Médine.
Très bien, merci Kamal Chekat et hâte de voir votre livre.
Inch'Allah.
On rappelle le titre, La guerre dans les écrits sacrés.
Dans les écrits sacrés ou dans les textes sacrés plutôt.
Merci à vous Kamal Chekat, merci à tous ceux qui étaient de la partie. N'oubliez pas de faire un tour sur les réseaux sociaux et sur notre page Au cœur de l'islam, chaîne 3 sur x.com. Au revoir, bon week-end. Mmh.